VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Niger, première réunion aujourd'hui du nouveau gouvernement mis en place par le Premier ministre Brigy Raffini, 10 jours après l'investiture du président Mahamadou Issoufou, réélu à une écrasante majorité suite au boycott du second tour de la présidentielle par l'opposition. Pour les réactions des Nigériens à la nouvelle équipe gouvernementale, notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa, a tendu son micro à des habitants de la capitale.
Je pense pas que ce soit ce à quoi les Nigériens se sont attendus, parce que au regard de tous les défis qui pointent à l'horizon, surtout financiers, je pense que 38 ministres pour un gouvernement d'un pays comme le nôtre, je trouve que c'est un peu lourd. Quelque part, c'est une récompense et politiquement, ça se justifie.
Le premier constat qu'on fait, c'est un gouvernement pléthorique. Dans le Niger où tout est priorité, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, tout est priorité. Un gouvernement de 38 ministres est trop pour le pays.
Un gouvernement de 38 membres n'est ni plus ni moins ce que les jeunes disaient, un partage de gâteau. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est très nuisible, à mon sens, pour l'économie du Niger. Une économie, d'ailleurs, qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins essentiels de la population du Niger.
Quelles sont vos attentes ?
De ce gouvernement, sincèrement rien. Parce que pour moi, il ne peut pas. L'histoire nous dira.
Si c'est autour de 30, là, d'accord. Sinon, vraiment, j'ai regardé le profil de tout un chacun parmi eux. Je les connais presque tous. Hein. C'est une bonne équipe. Que Dieu leur donne bonne chance et que notre pays aille de devant.
Voilà, c'était notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa, qui avait tendu son micro à des habitants de la capitale du Niger. Et puis au Mali, un soldat français a été tué et 3 autres blessés ce matin au cours d'une opération de la force française Barkhane dans le nord du pays. Leur décès est dû à l'explosion d'une mine contre leur véhicule blindé, selon les autorités françaises. Au Nigeria, un haut responsable a reconnu l'existence d'une fosse commune contenant 350 corps. Ce sont les personnes tuées et enterrées au lendemain des affrontements du 12 décembre 2015 entre militaires et membres de la minorité chiite à Zaria, dans l'état septentrional de Kaduna. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
L'origine de la tuerie, c'est la tentative d'assassinat présumée du chef d'état-major des armées, le général Tukur Yusuf Buratai. Un barrage érigé par le mouvement islamique du Nigeria avait bloqué son convoi. Ceci avait provoqué des affrontements entre les militaires et les chiites. Le directeur général du bureau interconfessionnel de l'état de Kaduna, Mohamed Namadi Moussa, a avoué aux enquêteurs qu'il s'est rendu à Zaria le 13 décembre en compagnie avec le chef de la police de Kaduna pour déterminer le nombre de cadavres et la manière de les enterrer. Le bilan exact reste inconnu, mais un responsable nigérian a fait état de près de 350 corps dans une fosse commune, tandis que le groupe chiite parle de quelques 730 disparus. L'armée nigériane, accusée de graves violations des droits de l'homme dans la répression de l'insurrection des islamistes et de Boko Haram, s'est défendue en assurant que les soldats avaient respecté à Zaria les règles d'engagement.
La lutte contre Boko Haram maintenant. De plus en plus d'enfants sont impliqués dans des attaques suicides dans la région du lac Tchad, où le groupe islamiste nigérian affaibli militairement tente d'instaurer la terreur par tous les moyens. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'UNICEF. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de 4 enfants utilisés dans des attaques kamikazes en 2014, on est passé à 44 l'année suivante au Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger, où sévit Boko Haram qui a rallié l'organisation de l'État islamique. Le rapport de l'UNICEF met l'accent sur la situation dramatique de milliers d'enfants victimes d'enlèvements, d'abus sexuels et de mariages forcés qui sont devenus une arme de guerre aux mains de Boko Haram qui les utilise comme bombes humaines ou pour transporter des explosifs.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Élection présidentielle au Tchad, l'Union européenne demande que le dépouillement et la compilation des votes se déroulent de façon transparente et vérifiable. Mise au point qui intervient alors que les opposants dénoncent la fraude électorale. Le chef de l'opposition Saleh Kebzabo, candidat rival du président sortant Idriss Déby, accuse le gouvernement de bourrage d'urnes et de vente de cartes d'électeurs. Le président Déby fait figure de grand favori parmi les 13 candidats en compétition. Au Congo-Brazzaville, des dizaines de jeunes ont été arrêtés dans la région du Pôle, dans le sud du pays, selon les défenseurs des droits de l'homme. Il y a une cinquantaine d'opposants actuellement en détention. Une situation qui contraste avec la mise au point de Brazzaville le week-end dernier contre la prise de position de Washington condamnant les irrégularités lors de l'élection présidentielle du 20 mars. Des détails avec le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila.
La situation des droits de l'homme en République du Congo est très inquiétante. Les libertés sont bafouées en toute impunité. On prive la jeunesse congolaise du droit à la liberté d'expression. On prive les leaders politiques de l'opposition de tous les droits et libertés politiques, alors que la République du Congo est signataire de plusieurs instruments internationaux. Les collaborateurs des leaders politiques qui sont aujourd'hui privés de liberté pour avoir exprimé leurs opinions par rapport au déroulement de l'élection présidentielle. Actuellement, au Congo, nous pouvons dénombrer une cinquantaine de cas de prisonniers politiques. Et c'est la privation de liberté de ces personnes ne se justifie pas. Le fait d'avoir exprimé les opinions politiques ne peut pas être considéré comme étant une infraction.
Trésor Nzila, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Burundi, au moins 5 personnes tuées lundi soir dans la commune de Gisuru en province de Ruyigi à l'est du pays et 6 autres blessés selon le gouverneur de la province. Le gouverneur précise que 5 personnes ont déjà été arrêtées pour des raisons d'enquête et les autres suspects auraient fui en direction de la Tanzanie voisine. Des coups de feu ont également été entendus hier soir dans le quartier de Moussaga au sud de la capitale et plusieurs personnes interpellées pour interrogatoire. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le gouverneur Hassan Abdallah de la province de Ruyigi, à l'est du Burundi, a indiqué que 5 personnes ont été tuées quand des gens armés ont tiré lundi soir dans le tas au marché de Muninya, en commune de Gisuru. 5 autres personnes ont été arrêtées selon la même source, qui affirme que ces personnes ont été reconnues comme étant originaires de la même colline, mais ayant quitté le Burundi pour se réfugier en Tanzanie. Hassan Abdallah confirme que 6 personnes ont été blessées. Les sources de la population sont formelles. Ces bandits armés ont voulu s'attaquer à l'administrateur de Gisuru, Aloïse Nzira, mais se sont mis à tirer sur les gens qui étaient au marché de Muninya. En novembre dernier, 2 personnes, dont un policier, avaient été tuées dans la même commune de Gisuru par un groupe armé venu de la Tanzanie, selon l'administration de Ruyigi. Il est à noter que la Tanzanie abrite plus de 120 000 personnes ayant fui les violences depuis l'élection controversée du président Pierre Nkurunziza. Signalons aussi que des tirs ont été entendus lundi soir dans le quartier de Moussaga, au sud de Bujumbura. Selon la police, au moins 6 personnes ont été arrêtées. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Crise en Libye, tout comme l'Italie avait été le dernier pays occidental à retirer son ambassadeur à Tripoli lors des violences de l'été 2014 dans son ancienne colonie, le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni est aujourd'hui le premier responsable occidental à se rendre dans la capitale libyenne. Sa visite à Tripoli coïncide avec une réunion internationale à Tunis sur le soutien à la Libye. Idriss Fall.
Paolo Gentiloni est resté 3 heures à Tripoli où il a été reçu par Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale. Il a réaffirmé que son pays est prêt à coopérer avec Tripoli dans la lutte contre la menace djihadiste en précisant que cette mission est d'abord celle des Libyens. Paolo Gentiloni a remis des aides médicales pour les hôpitaux, dont 3 kits sanitaires pour quelque 30 000 patients. Sa visite intervient au moment où une cinquantaine de pays sont réunis à Tunis pour coordonner le soutien à la Libye. Pour le vice-premier ministre libyen Moussa Al-Koni, parmi les défis à relever, outre la sécurité, il y a les services de base comme la santé et l'électricité. Le diplomate britannique Christian Turner a annoncé que le Royaume-Uni allait débloquer 1 million de dollars en aide d'urgence. Selon l'OMS, plus de 2,4 millions de Libyens ont besoin d'aide humanitaire sur les 6 millions d'habitants. Le mois dernier, l'OMS avait évalué à 50 millions de dollars de besoins immédiats pour le seul secteur de la santé.
Et pour terminer l'actualité aux États-Unis, le général américain Jordan Ford, chef d'état-major interarmes, prépare un message à ses troupes pour leur rappeler de ne pas se mêler de politique au moment où les propositions militaires qui font polémique fusent dans la campagne pour la Maison-Blanche. Cette réflexion intervient après une série de déclarations choc par les aspirants républicains à la magistrature. magistrature suprême. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.